France Culture, les films qui ont changé le monde. Olivia Gesbert.
Bonjour à tous. Première femme cinéaste du monde, une Française, Alice Guy a longtemps été une figure oubliée du secteur et des spectateurs. Voilà pourquoi, en choisissant de revenir aux sources du 7e art pour cette collection de 10 films qui ont changé le monde, nous l'avons choisie, elle, plutôt que l'un des quatre grands noms des débuts de l'industrie cinématographique, ses illustres pères, les frères Lumière, Georges Méliès, Louis Feuillade ou encore Charlie Chaplin. Tous pionniers de l'image en mouvement, tous inventeurs d'un monde parallèle, le cinéma. Scénariste, réalisatrice, productrice, directrice de studio, celle qui commença comme secrétaire de Léon Gaumont a saisi d'emblée qu'une révolution était en cours, technologique mais aussi artistique. Qu'elle en serait actrice et non pas spectatrice, fille de libraire, Alice Guy veut raconter des histoires, mais à sa manière, avec les futurs outils de son temps. On est en 1896, à tout juste 23 ans, elle tourne son premier film, La Fée au Chou. Un court-métrage, le premier film de fiction. Alors pourquoi ce film a-t-il changé l'histoire du cinéma? Comment a-t-il influencé notre regard? On en parle ensemble avec nos invités durant l'heure qui suit.
Est-ce que vous savez qui est Alice Guy?
Non.
Vous n'en avez jamais entendu parler.
À moins que ce soit la femme du ministre des Affaires culturelles, je ne vois pas qui ça peut être.
Vous semblez connaître ou vous intéresser au passé de la Maison Gaumont. Est-ce que vous savez qui est Alice Guy?
Alors, attends, Alice Guy, Madame Gouerbe. Ah non. Je m'intéresse dans le sens où j'essaie de réunir, oui, mais Alice Guy, c'est quelqu'un qui était dans la maison? Non. Je reconnais, je ne connais pas tout le monde. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés chez Gaumont. Qui a été salarié de la société?
Bien, ce matin, dans la grande salle de réception de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, M. Jacques Jaujard, secrétaire général des affaires culturelles, a remis à une charmante dame qu'on pourrait appeler une ancêtre du cinéma, mais qui est si jeune et si charmante que nous n'osons pas l'appeler ainsi, Madame Alice Guy lui a remis la Légion d'honneur au titre, justement, de la culture française.
On peut dire que le premier metteur en scène au monde a été une femme, c'est-à-dire Alice Guy.
Aujourd'hui, on ne se demande plus, connaissez-vous Alice Guy? Mais pourquoi a-t-elle été si longtemps éclipsée dans la grande histoire du cinéma? Née en 1873, morte en 1968, Alice Guy, nous voilà. À mes côtés, la cinéaste Céline Sciamma, réalisatrice notamment de Portrait de la jeune fille en feu, de Tomboy ou encore de Naissance des pieuvres. Notre première invitée a préfacé Alice Guy, la fée cinéma, son autobiographie, l'autobiographie d'une pionnière rééditée chez Gallimard. Et bonjour Céline Sciamma.
Bonjour. Bonjour.
À mes côtés également, l'historien du cinéma Daniel Chocron, auteur de Alice Guy, pionnière du cinéma. Bonjour à vous.
Bonjour.
Un livre paru il y a 10 ans. La romancière Céline Zufferet, ensuite, enfin, devrais-je dire plutôt auteur de Nitrate, publié chez Gallimard et dont l'héroïne Constance, monteuse de films, a justement lu les mémoires d'Alice Guy que vous avez préfacées, Céline Sciamma. Alice Guy, pionnière et aventurière qui a dû renoncer à son ascension du Mont Blanc. Voilà que Constance donc veut réparer l'histoire, réparer la mémoire, recomposer le film à partir d'images d'archives et qu'elle part à la recherche d'une bobine perdue. Bonjour, bonjour à vous Céline Zufferet.
Bonjour.
Bonjour à tous les trois. La fiche technique de ce film, La Fée au Chou, auquel on va s'intéresser aujourd'hui. Un film en noir et blanc, un film muet, évidemment, un film d'une toute petite minute. On parlait, je crois, en maître à l'époque.
Mais dites-moi, votre premier film vrai, ah, La Fée au Chou, combien durait-il?
Oh, à peu près 25 mètres.
25 mètres?
Oui, tout au plus.
Et quel a été le plus long film que vous ayez fait?
Eh bien, je crois que c'est La Passion, que j'ai fait en 1906, avant mon départ pour l'Amérique. Et où j'ai fait des surimpressions, etc., des choses qui étaient alors tout à fait nouvelles.
Et le film durait combien?
Le film, il avait 600 mètres.
Et vous étiez à la fois la scénariste,
oui.
Le réalisateur.
Oui.
Et alors, je vais vous demander, que pensez-vous du cinéma aujourd'hui, madame Alizy?
Je pense qu'on a fait des progrès énormes, évidemment. Mais je pense aussi que je n'aimerais pas être metteur en scène maintenant, parce que je n'aurais pas mes coudées franches comme je les avais à ce moment-là.
Et combien coûtait un film moyen à l'époque?
Très cher. C'est-à-dire que j'ai commencé avec ma dot, qui était de 50 000 francs, mais évidemment, 50 000 francs de cette époque, ça valait tout de même quelque chose.
Et combien de films en tout avez-vous tourné?
Oh, je crois qu'en Amérique, j'en ai fait au moins 200.
Eh bien voilà, je pense qu'aucun metteur en scène actuel ne peut revendiquer 200 films.
Mais oui, mais ça dépend de la qualité aussi, vous savez.
Ah, mais ça...
Mais je crois que ce n'était pas trop mauvais, parce que... Ils avaient du succès.
Voilà, alors Alice Guy est-elle un modèle, Céline Sciamma? Vous avez commencé avec votre dot, vos premiers films. Est-ce que vous en avez tourné 200 aux États-Unis, c'est-à-dire à peu près 4 à 500 pour elle au total?
Je suis ravie de la rencontrer. Et plus je la rencontre, plus je suis contente de ce qu'elle me transmet. J'ai l'impression que la retrouver, c'est penser le cinéma pour moi.
Là, cette interview, ou cet entretien, en tout cas, le charme des conversations d'antan, ça date de 1949. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui vous frappe dans ce qu'elle dit? La manière, peut-être, dont elle le dit, Daniel Chocron?
Alors, il y a sa voix, hein, évidemment, sa voix qui est assez symptomatique. Et alors, elle disait, dans son autobiographie, elle a dit une chose très jolie, elle a dit « Le cinématographe était mon prince charmant ». Et en fait, ce qui est passionnant avec Alice Guy, c'est que elle a découvert le cinéma en même temps qu'elle en faisait. Ça, c'est extraordinaire.
Ouais, son prince charmant. En même temps, elle n'a jamais réellement divorcé avec le cinéma, mais après sa période américaine, elle aura du mal quand même. Elle aura du mal à retourner, elle ne retournera plus en France. Elle a divorcé, malgré elle, hein, du cinéma. Oui. Comme peut-être d'ailleurs de son mari, si je peux me permettre la comparaison, puisque vous parlez de prince charmant, avec qui elle est partie aux États-Unis et qui va la quitter là-bas, partir avec une actrice et rejoindre Hollywood.
C'est ça.
Voilà, bon, bah, le prince charmant, jamais totalement charmant.
Ouais. Alors, effectivement, Alice Guy s'est mariée, et c'est pour ça qu'elle est partie aux États-Unis d'ailleurs, parce que Léon Gaumont, qui voyait en elle, non pas une menace, mais disons qu'elle prenait de plus en plus d'importance, a décidé d'envoyer Alice Guy accompagner son mari aux États-Unis, où il devait monter une succursale Gaumont. Et donc, en bonne épouse, elle a suivi. Et donc, ce qui est extraordinaire, je ne sais pas si on va y revenir, c'est qu'elle a monté la première maison de production aussi aux États-Unis, qui s'appelle la Solax.
On va y revenir sur ces années américaines, sur ces années françaises, sur ce premier film. D'abord, Céline Zuffray, quand vous entendez cette première extrait, cette voix d'Alice Guy, elle parlant aussi de la longueur de son film. Hein, on dit une minute aujourd'hui, elle parlait de 25 mètres, vous qui avez plongé... Pour écrire ce roman Nitrate dans les pellicules, les bobines et notamment celle d'Alice Guy, comment vous représentez ce film sur 25 mètres?
Oui, moi j'ai découvert Alice Guy en tapant son nom aussi sur YouTube et en voyant ses premières images. Et c'est vrai que moi au début de la rédaction de ce roman, je connaissais rien du tout à l'origine du cinéma. Et donc ça a été en effet parler de mètres, parler de nitrate, de découvrir que les trois quarts quasiment des films des 20 premières années du cinéma avaient disparu. Ça a été une série d'étonnements et donc ce roman est né vraiment de la volonté de comprendre toutes ces choses-là. Et Alice Guy a été une sorte de guide, en tout cas, pour la découverte des images de cette période.
Le nitrate, c'est quoi qui donne ce titre à votre roman?
Le nitrate, donc, c'était les pellicules de cette époque étaient faites en nitrate de cellulose, un matériau qui était très très inflammable et surtout difficile à conserver. Donc plus j'ai cherché, plus je me suis rendu compte de l'importance des traces pour écrire l'histoire et donc de la difficulté de conserver ces traces-là du début du cinéma et surtout le cinéma à cette période qui n'était pas considéré comme un objet de patrimoine, donc on n'a pas gardé de toute façon. Et moi, ce qui m'avait vraiment frappé chez Alice Guy, c'est cette volonté qu'elle a tout le temps eue de faire des films et ensuite de les retrouver. Et donc quand on entend des interviews d'elle où elle dit qu'elle va retrouver ses films, qu'elle en est sûre et qu'elle a 85 ans, et de savoir avec le recul du passé, nous, qu'elle en a retrouvé, suivant les sources, soit 0, soit 2.
3, moi j'ai lu, 3. Oui, c'est ça, c'est pas énorme, hein, sur 4
voilà,
à 500 films tournés.
C'est assez fou et elle a que sa mémoire. Ouais. pour dire oui, j'ai fait ces films, et elle a une volonté aussi de vraiment écrire sa propre histoire, d'annoter les articles qui mentionnent des erreurs et de corriger les choses. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup admiré chez elle.
Oui, mais c'est ce que vous dites aussi à cette époque, au moment du cinéma premier, quand elle a réalisé tous ces films muets et parlants, elle le fait sans crédit ni copyright quasiment pour l'ensemble de ses films, et donc beaucoup ont été perdus ou attribués à d'autres aussi. À l'époque, on ne signait pas finalement.
Oui, à l'époque, elle réalise des films et le mot réalisateur, réalisatrice n'existait pas. Donc ce qu'elle fait n'a pas encore de nom, mais juste elle le fait. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qu'on retrouve dans tout le parcours d'Alice Guy, c'est qu'elle ne se pose pas de questions. Elle a envie de faire quelque chose. Elle fait un premier film. Gaumont n'y croit pas à la fiction à l'époque. Et elle y va, elle le fait, elle en fait un, elle en fait deux, elle en fait 100. Elle déménage aux États-Unis, pareil, elle monte sa société de production, une des premières femmes à monter sa société de production. Elle est très sûre d'elle et elle a aussi beaucoup d'optimisme, je trouve, dans sa volonté. Et ça m'a beaucoup impressionnée chez elle.
Et elle a réalisé des centaines de films, et tous donc n'ont pas été conservés, loin de là. La Fée aux Choux, vous diriez que c'est une miraculée du nitrate, justement, des greniers et des cinémathèques?
Oui, c'est assez fascinant de voir pourquoi une trace a été conservée. C'est quasiment... quand j'ai étudié cette période du cinéma, je me suis rendu compte de plein d'histoires extraordinaires qui jonchent l'histoire et les redécouvertes des films qu'on redécouvre dans des greniers, dans des greniers d'église ou sous la glace au fin fond du Yukon. Et voilà, on a retrouvé par exemple des films d'Alice Guy dans la province du Golestan en Iran, juste parce qu'il y avait le prince du Golestan qui était venu à l'exposition universelle de 1900. Il avait acheté un cinématographe et des films, parmi lesquels des films d'Alice Guy. Donc avec ce cinématographe, il a tourné les premières images en Iran et il a conservé des films d'Alice Guy jusque-là. Donc c'est assez incroyable.
C'était peut-être lui le prince charmant en fait, voilà. Hein, en réalité. Particularité de ce film, La Fée aux Choux, c'est une histoire scénarisée dans l'esprit un peu de L'Arroseur arrosé, réalisé par Louis Lumière, sorti un an avant. C'est à la suite de la première projection d'ailleurs du cinématographe des Frères Lumière qu'Alice Guy va avoir le déclic. Elle veut tourner de courtes fictions et elle demande à son patron de lui fournir du matériel, des caméras, pour en faire la publicité aussi de ce matériel qui sera ensuite vendu par les Gaumont. Pour les conditions de réalisation de ce premier film, la parole à Madame la réalisatrice, alors secrétaire de Léon Gaumont.
Je voyais toujours ces fameuses scènes dans la rue, etc. Je me disais qu'on pourrait faire autre chose. Et j'ai demandé à Gaumont la permission de faire quelques scénettes et de les mettre en scène. Oh, il m'a dit, oui, c'est une affaire de jeune fille, je veux bien. Mais à condition, surtout, que ça n'empiète pas sur votre courrier. Alors, j'arrivais à 8h du matin chez Gaumont, et je dépouillais le courrier, je le distribuais, etc. Et puis, je m'en allais à côté des travaux photographiques. Il y avait un terrain absolument nu, n'est-ce pas, avec une petite terrasse bitumée. Et c'est là-dessus que nous avons commencé avec mon opérateur, mon caméraman. Et nous avions simplement un pied qui servait comme un pied photographique, qui s'en allait de tous les côtés, n'est-ce pas? Un appareil avec des boîtes qui prenaient le jour partout, parce qu'elles étaient extérieures. On tournait à la main, n'est-ce pas? Et quand on critique les premiers films, ça me fait toujours mal au cœur, parce que si les gens avaient vu dans quelles conditions nous le faisions, n'est-ce pas? C'était des films de 25 mètres, c'est entendu. Et là, j'ai fait mon premier film qui s'appelait « La Fée aux Choux ».
Le film a été tourné dans un jardin de Belleville, Céline Sciamma. Vous, la regardeuse, que voit-on à l'image?
Alors, on voit un couple qui rencontre une femme qui est la Fée aux Choux. Et je crois que même on peut considérer que c'était son nom, que c'était écrit comme un seul mot. Et qui fait apparaître des enfants, des choux. Tout simplement. Oui. Je ne sais pas si je le décris bien, mais en tout cas, on sent que ce premier film de fiction, non seulement il déploie une petite histoire, mais surtout, il le déploie exclusivement pour le langage du cinéma. C'est-à-dire qu'elle fabrique une histoire qui ne pouvait pas être racontée autrement qu'avec le langage du cinéma, c'est-à-dire une apparition et une disparition. Et donc, c'est ce qui est extrêmement beau et émouvant quand on regarde ou qu'on écoute Alice Guy parler de cinéma et qu'elle parle en maîtres, parce qu'évidemment la pellicule défile dans le magasin et c'est physiquement des maîtres et des maîtres, mais c'est aussi parce que elle invente des histoires pour l'art du mouvement, et donc l'art du mouvement se mesure en maîtres.
Mais alors les enfants naissent dans les choux, ça on le savait déjà, mais comment fait-elle pour le montrer à l'image? Parce qu'il n'y a pas encore d'effets spéciaux à l'époque. Hein. Quel subterfuge ou quel artifice du cinéma va-t-elle utiliser?
Il y a l'effet spécial du montage, donc l'apparition-disparition pratiquée dans sa plus grande candeur, mais qui est en réalité une idée poétique qui est le fruit d'une invention scientifique qui a à peine quelques années. Et donc c'est comment enfin le mouvement fait son entrée dans l'histoire de l'art. Et c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui réfléchit et qui donne tout son cerveau à participer à inventer cette langue. Et donc, dans tous les films d'Alice Guy, et dans tous les premiers films du cinéma, il y a ce langage du cinéma absolument roi, c'est-à-dire pas du tout envahi par les autres arts, et dans la pure jubilation de donner corps à des idées et des histoires par le biais du montage. Et donc c'est ce que fait Alice Guy, reine de la prise de vue, et ensuite une pensée du montage, évidemment d'un tourné monté, donc on pense à son montage alors même qu'on fait. Et moi je travaille un petit peu comme elle, encore aujourd'hui, je crois.
Oui, et c'est aussi une cinéaste totale, dans le sens où elle est scénariste, elle est réalisatrice, et elle est monteuse de ses films, hein.
Oui, elle est dans l'exploration totale du langage du cinéma, mais quelle que soit la division du travail, de toute façon, le metteur en scène est dans cette pensée-là, toujours.
La fée aux choux, on s'intéresse au titre généralement au début de nos discussions. Qu'est-ce qui vous inspire ce titre? Pourquoi ce titre, la fée aux choux?
Pourquoi la fée aux choux? Ouais. Parce que ça, disons que...
C'est très poétique en même temps, je trouve.
Oui, mais parce qu'on voit des choux. Alors, ce qu'il faut dire aussi, pour ajouter une petite chose, c'est que je crois qu'en fait, il avait des bébés. Donc, au début, on voit les bébés. Et c'était des mannequins. Enfin, c'était des petites poupées. Ouais. Seul le bébé que le couple va prendre était vraiment réel. Et c'est ça qui est aussi très beau, c'est-à-dire que déjà, elle crée l'illusion, quoi, hein, c'est ça, qui est formidable. Alors, la fée aux choux, oui, parce que il y a des choux, tout simplement, hein, je crois que c'est aussi simple que ça. Et la fée, parce que, voilà, elle va donner du bonheur aussi aux gens, aux couples, en leur donnant un bébé. Et alors, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que cette fée était la meilleure amie d'Alice Guy. Elle s'appelait Yvonne Serrant. C'était une jeune femme qui travaillait plus ou moins dans le music-hall, qui travaillait quand elle le pouvait. Et elle lui a demandé, justement, de jouer comme ça. Et donc, ça a été la première actrice, en quelque sorte, de l'histoire du cinéma.
Ouais, elle ne jouait pas dans ses films? Elle était derrière sa caméra.
Elle ne jouait jamais, Alice Guy. Non, elle ne jouait jamais. Elle disait, j'ai assez de difficultés à tourner, etc. Donc, alors, il y a une chose intéressante, c'est que, à un moment donné, elle a tourné ce qu'on appelle des chronoscènes, à partir de 1905. C'est-à-dire, l'ancêtre des clips, en quelque sorte, où elle filmait pendant l'espace d'une chanson, une personnalité, une vedette de l'époque, comme Dranem, comme la belle Otero, des gens comme ça. Et ce qui est formidable, c'est que, il y a un clip, une sorte de making-of, où on la voit en train de tourner un film, je crois que c'est sur Dranem, justement, où on la voit derrière la caméra, avec sa longue robe, comme à l'époque, son chapeau, et on la voit en train de diriger, comme ça, les techniciens, etc. C'est assez intéressant à voir, d'ailleurs.
Et puis aussi, une archive où elle raconte qu'elle aurait aimé être actrice, aussi.
Oui, aussi, oui.
Mais les conditions, à l'époque, n'étaient pas forcément très bonnes pour les femmes qui voulaient devenir actrices, et les maris qui n'en étaient pas forcément d'accord. Les parents, surtout, en l'espèce, pour Alice Guy. Qu'est-ce qu'il raconte, ce film, pour vous, Céline Zuffray? Qu'est-ce qu'il nous dit de l'époque, des femmes, de la maternité? Qu'est-ce qu'elle a voulu nous raconter pour vous avec ce film? Il y a beaucoup d'humour, hein, aussi. Je pense quand même dans les moments où ces poupées sortent des choux, comme vous le disiez à l'instant, et qu'elles jonchent le sol, elle le fait aussi dans la gestuelle de cette fée avec pas mal d'humour.
Oui, c'est un peu comme si voilà, avoir un enfant c'était aussi facile que ça, alors que en effet c'est loin d'être le cas. Mais moi, ce qui me fascine dans ces images de l'époque qu'on retrouve dans La Fée aux Choux, mais dans les autres aussi, c'est cette fascination de l'enregistrement. Ils ont inventé une caméra qui enregistre et un projecteur qui permet de reconstituer le mouvement, mais au fond ils savent pas quoi en faire. C'est d'abord en effet un objet scientifique pour décomposer le mouvement, et voilà, Alice Guy et d'autres s'en emparent. Et moi, ça m'a fasciné de savoir quelles sont les premières choses qu'on filme. Donc, en effet, des gens qui sortent d'usine, mais aussi, par exemple, des vagues qui frappent un rocher, ou Edison, par exemple, un de ses premiers films, c'est un homme qui éternue. Donc, je trouve ça assez fou qu'il se soit dit, voilà, on peut enregistrer quelque chose, on va essayer de capter un éternuement, quelque chose qui est par essence assez difficile à attraper. Et voilà, avec Alice Guy, on voit, Alice Guy, c'est déjà beaucoup plus élaboré. Elle fait un décor, elle fait des choux en carton. Il y a aussi un fond qui a été fait par un peintre éventailliste. Donc, il y a une naïveté de l'enregistrement, mais il y a quand même aussi beaucoup, beaucoup de travail. Et elle a vraiment pensé son plan, pensé sa scène. Et, et tout est en place pour l'illusion du cinéma.
Voilà, et elle a pensé fiction, il faut le ressouligner, et non pas documentaire. Elle ne voulait pas enregistrer, filmer des images du réel, mais bien imaginer, raconter une histoire. Mmh. À votre avis, Céline Sciamma, je ne sais pas si elle l'évoque dans son autobiographie, dans ses mémoires, pourquoi cette idée de cette fée au chou ?
J'ai l'impression que c'est... En tout cas, c'est fou que sa première décision de représentation de mouvement, ce soit une naissance. Mmh. Et qu'effectivement, elle débarrasse cette naissance du corps. Il se trouve qu'Alice Guy, je pense, dit que le cinéma est son prince charmant, parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'est marié pour avoir des enfants, elle le dit d'ailleurs, et qui a été un peu obligée de se marier par son patron. Elle a le mérite d'avoir réussi par deux fois, malgré le poids du patriarcat, à mener carrière dans deux pays différents. C'est incroyable, mais ça s'est pas arrêté parce que son mari l'a quittée pour une actrice, parce que ça, je pense qu'elle s'en fichait pas mal. Je pense qu'elle-même, elle le quittait pour des actrices, d'ailleurs. Je pense que c'est parce qu'il l'a ruinée. Et ce qui l'a empêchée totalement ensuite de continuer d'être investie dans le cinéma en France à son retour, que ce soit comme réalisatrice ou autre chose, parce qu'elle aurait pu diriger des studios, c'est qu'elle manquait d'argent pour investir. Donc, je pense qu'elle dit absolument quelque chose de très personnel dans ce premier film, qui est un film justement qu'elle fait avec ses amis du musical, ces actrices qu'elle n'a pas eu le droit de devenir, et elle décide d'utiliser le cinéma d'un coup pour un truc qui serait magique pour elle. Et d'emblée, elle cherche à modifier politiquement la réalité. Et c'est ça la fiction aussi, c'est proposer des... Elle rêve tout de suite à un monde qui la libère, qui exauce des souhaits et qui la libère, et surtout qui exauce le souhait que le cinéma soit la grande création de sa vie, quoi. Et donc c'est assez émouvant de voir que le courage, en fait, de ce premier geste qui est fantaisiste, mais qui est aussi se donner naissance à soi-même, quoi.
Comment évoquer un film muet à la radio quand on n'a pas l'image ? Félicie Faugère a retrouvé une version audio de La Fée aux Choux, une adaptation de 1975 signée Nicole Lise Bernheim et Claire Clouseau.
Oh, 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 oh,
tiens, un bébé dans un chou.
Voilà le genre d'adaptation qui nous laisse muette, voire muet. Hein, vous aussi, Daniel Chocron.
Oui.
Non, mais bon, c'était France Culture dans les années 70, comme l'a dit quelqu'un que je ne nommerai pas, dans ce studio ou juste derrière la vitre. Et ça a le mérite d'être, peut-être d'être clair quand même, hein, dans ce qui est dit. Bon, alors,
bah, les films d'Alice Guy étaient accompagnés de... De musique.
De musique, oui.
Et c'est vrai que quand on regarde les films sans musique, en fait, ils sont beaucoup plus inquiétants. Parce que c'était aussi ça, c'était aussi des fantômes. Hein. La musique a aidé le cinéma à sortir de la maison hantée pour aller à la fête foraine. Et là, je trouve qu'on retrouve cette inquiétude. Donc c'est plutôt une bonne interprétation de ces images, je pense aussi.
Ouais. Est-ce que vous vous souvenez, tous les trois, de votre première expérience de spectateur devant un film d'Alice Guy ? Alors, La Fée aux Choux ou un autre, la première fois que vous avez vu un film d'Alice Guy, dans quelles conditions c'était, comment vous en aviez entendu parler. Vous nous disiez tout à l'heure, Céline Dufray, c'était sur YouTube, en tout cas le premier contact avec Alice Guy. Et vous, Céline Sciamma ?
Moi, j'ai eu un premier contact avec Alice Guy qui était un contact d'espace, pas du tout lié à ses images, mais c'est qu'à l'école de cinéma, la FEMIS, dans laquelle je faisais mes études, qui est l'école de cinéma public, il y a trois salles de projection, une très grande, qui est la Jean Renoir, une médium, qui est la Jacques Demy, et une salle au sous-sol de 10 places, qui est la salle Alice Guy. Et je ne savais rien de cette cinéaste. Et je me disais même, ça se trouve, c'est un type qui s'appelle Guy Alice. C'est le pseudo qu'elle a utilisé d'ailleurs comme écrivain ensuite. Et du coup, je ne savais rien.
Je savais juste que c'était généralement la salle où on serait peu nombreux.
Mais quand même, si on essaye d'être positif, ça veut dire qu'il y a une vingtaine d'années, à la FEMIS, il y avait quand même une salle absolument à l'ISGUI parmi trois salles.
Exactement. Ce qui prouve que il y avait une volonté politique. Il se trouve que la symbolique dans l'espace est terrible et qu'aujourd'hui, moi, je milite pour que d'un coup de peinture, cette salle du sous-sol devienne la salle du premier étage. Et ensuite, moi aussi, il y a eu le documentaire porté par la voix de Jodie Foster et qui m'a familiarisée avec le destin. Et puis ensuite, moi aussi, c'est YouTube. Et c'est Madame a des envies.
Madame a des envies.
Ah oui.
Un film où une femme insère des objets dans sa bouche qu'elle suce, qu'elle lèche, qu'elle...
Et vous ?
Moi, c'est parce que je préparais une conférence sur la passion du Christ. Et donc, j'ai vu cette passion du Christ, qui est considérée d'ailleurs comme une des plus belles du cinéma muet. 25 tableaux, 35 minutes, chaque plan est constitué comme si c'était un tableau, hein, vraiment, c'est vraiment très très beau. Et quand j'ai vu ça au départ, j'étais vraiment très impressionné, surtout quand j'ai vu la date, 1906 quand même, c'était vraiment le cinéma primitif, hein, donc évidemment le Feuillade commençait à faire des films sur le réel, mais c'était vraiment très 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 peu fréquent encore. Et voir ce film là qui est vraiment très beau visuellement, ça m'avait impressionné, donc j'ai voulu en savoir plus. Et après, bon, j'ai travaillé par rapport à des études que je faisais, etc., donc sur Alice Guy. Et j'ai travaillé aussi sur une autre pionnière du cinéma qui était Musidora aussi.
Alors voilà pour vos trois prises de contact. Est-ce que ça vous a tout de suite plu, Céline Sciamma? Est-ce que vous y avez tout de suite trouvé, une complicité dans l'échange de regards avec les premiers films d'Alice Guy que vous avez vus?
Oui, dans le sens où, de toute façon, je crois que il y a peu d'archives cinématographiques de cette époque qui sont pas absolument fascinantes au fond, captivantes. Mais là, c'est vrai que il y a une dynamique féministe et puis surtout aussi une politique des corps, notamment du jeu chez Alice Guy et son fameux Soyez naturel,
qu'elle disait à ses comédiens,
qui produit, qui a une signature. Donc c'est vrai qu'on a l'impression à la fois de rencontrer une archive d'un moment et en même temps la signature super vivante de quelqu'un qui est familière et qui semble neuve, c'est-à-dire pas beaucoup utilisée.
Et pour vous ?
Oui, moi, ce qui m'a aussi frappée, c'est les hachures et la désintégration de la pellicule qu'on voit aussi beaucoup sur les films de cette période. Et donc, on a l'impression, moi, en tout cas, je trouve que la pellicule est comme vivante, le film respire un petit peu et a davantage de matérialité que ce qu'on peut voir avec les images numériques. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup frappée. Et pour Alice Guy, moi, il y a un film qui m'a un peu obsédée, c'est Tournage d'une phonoscène dont on a parlé, où voilà, on la voix, elle apparaît jamais dans ses films, et là c'est le seul film où elle apparaît, et on la voit tourner, on la voit au travail. Et donc j'ai regardé beaucoup beaucoup ce film, il dure peut-être 52 secondes ou quelque chose comme ça, et à un moment donné, elle se retourne pour vérifier, je pense, la caméra et la prise de vue. Donc, on a aussi cette impression de quelqu'un, il y a 100 ans qui se retourne et qui nous regarde. Et voilà, elle a cette grande robe, elle a la taille dans un corset, mais elle a les manches relevées. Et ça, je les avais pas remarquées tout de suite. Mais à force de voir et de revoir ce film, ces manches relevées, pour moi, c'est devenu tout un symbole aussi d'une femme qui réalise des films, qui a pas encore le droit de vote, qui est dans un corset, dans une tenue vraiment pas confortable pour travailler, mais qui relève ses manches parce que voilà, elle est au travail et elle accepte le corset, mais en tout cas elle relève ses manches. Et ces quelques secondes où elle se retourne, moi ça m'a vraiment guidée aussi dans l'écriture du roman.
Oui, vous y avez lu son tempérament dans ce film, dans cette image d'elle. Ça correspondait à ce que vous commenciez à vous imaginer avec la surprise de ses manches relevées. Qui racontait quoi d'elle ? Son côté extrêmement téméraire, parce que réaliser des films, les produire dans un monde d'hommes, tout simplement à l'époque, c'était quand même une prouesse. Et ça, il faut peut-être pas cesser de le souligner ou de le raconter.
Oui, tout à fait. Il y a cette grande question, est-ce que Alice Guy était féministe ? Voilà, moi je pense que elle a fait des choses, elle a fait ce qu'elle avait envie de faire sans être freinée par son statut de femme, sans se poser de questions. Elle a juste fait ce qu'elle avait envie de faire. Et ça, en soi, c'est déjà le premier acte féministe et ça suffit. Donc en effet, elle parle très peu de ses enfants, de son mariage. On sent que c'était pas quelque chose qui l'intéressait. Et ce qui l'intéressait, c'était de faire ses films. Et, Et voilà, par exemple, aux États-Unis, elle a développé un studio immense, elle a fait énormément de films, elle avait des décors monumentaux, et il n'y avait pas grand-chose qui l'arrêtait. Et ça, aux États-Unis, on l'a bien compris, et les États-Unis aiment l'exceptionnel, et donc elle a été beaucoup plus interviewée à l'époque qu'en France, quand elle dirigeait pourtant le plus grand studio du monde, qui était Gaumont. Aux États-Unis, on s'est beaucoup intéressé à elle, parce que justement, c'était exceptionnel, et donc je pense qu'elle... Elle a eu, en tout cas, j'aime à croire, un début de reconnaissance aux États-Unis de son vivant.
Daniel Chocron, je ne sais pas si vous avez tiqué ou si, si vous vouliez abonder sur Alice Guy.
J'abonde, oui. Alors, en fait, moi, je pense que c'est d'abord un regard féminin. Alors après, au fur et à mesure des années, ça va devenir un regard plus féministe. Mais ce qui est passionnant, il y a deux choses qui m'avaient marqué en me penchant vraiment sur son parcours. C'est d'une part que quand on voit ses films, on voit aussi... l'état d'une société, quand même. Hein. Par exemple, il y a un film qui date de 1899, je crois, qui s'appelle « Vue de l'Opéra ». Donc, la place de l'Opéra à Paris, ça dure une minute, et on voit toute la place envahie par des carrioles, des charrettes, comme ça. Et on voit seulement, à la fin du film, une voiture. Donc ça, c'est assez marquant. On voit aussi, quand elle montre les métiers qui n'existent bien sûr plus aujourd'hui, c'est aussi une valeur de témoignage. Et d'autre part aussi, quand on se penche sur sa filmographie, c'est la variété des genres. Elle a absolument fait tous les genres. Alors évidemment, en France, elle a fait des films grivois, parce que c'était aussi la mode, hein, comme il y avait les chansons grivoises et érotiques du début du siècle. Elle a fait des films un peu grivois. Elle a fait des films fantastiques aussi, des films de science-fiction. Et elle a fait des westerns quand elle était aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elle s'est renseignée et elle a voulu savoir quel était le genre préféré des Américains. Et depuis 1903, le genre préféré, c'était, depuis le film de Stratton Porter qui s'appelait Vol d'un rapide, et bien à partir de ce film-là, elle a voulu voir que elle s'est aperçue que le western, qu'on n'appelait pas encore western, mais film de cow-boy, était vraiment le genre préféré des Américains. Et bien, elle a tourné une quinzaine de westerns. Donc, c'est assez extraordinaire. Elle a appris à monter à cheval, à manier le lasso. Enfin, bon, voilà. Donc, elle est devenue vraiment... Et elle a fait des films de science-fiction aussi, un film d'horreur même. Et elle a absolument touché tous les genres, ce qui est absolument extraordinaire.
Elle avait cette audace-là. Oui. Sur ce point, sur cette question du féminisme... On sait aussi, et on le retrouve dans l'évolution de ces témoignages, qu'on pourrait dire aussi qu'on ne n'est pas féministe et qu'on le devient, que ça a été son cas face aux obstacles qu'elle a pu rencontrer au fil de sa carrière, de son parcours, c'est-à-dire à tout ce qui a pu à un moment ou à un autre freiner aussi ses envies. Première femme cinéaste, à la fois pionnière du genre, mais aussi précurseuse, si on peut le dire comme ça, d'un mouvement que vous avez, vous, Céline Sciamma, traduit en co-créant en France le collectif 50-50 pour la parité, l'égalité et la diversité dans le cinéma un siècle après. En quoi elle a pu, dans sa démarche, vous inspirer et peut-être souligner qu'elle n'était pas que réalisatrice, hein. Elle pensait aussi... ses films à elle, dans le système économique du moment, en étant à la fois la productrice et aussi la directrice des studios.
Non, moi, elle ne m'a pas inspirée à créer un organisme de médiation entre l'État et une industrie. Ça, je ne peux pas dire que ce soit ça. Mais en revanche, ce qu'elle nous raconte, c'est la continuité de notre participation à l'histoire de l'art, et spécifiquement à l'histoire du cinéma, qui est un art... suffisamment jeune pour qu'on puisse constater des dynamiques d'effacement qui sont des décisions, en fait.
Et à l'économie du cinéma, c'est ça que je trouve intéressant aussi.
Bien sûr, mais pour le coup, ça raconte... parce que pour moi, le fait que justement, on ne se souvienne pas d'elle comme une féministe alors qu'elle a vécu en féministe et fait des films sur le féminisme aussi, c'est parce que justement, elle a cherché à être acceptable et acceptée. Elle ne l'a pas trop ramenée dans ses mémoires. Et d'ailleurs, ses mémoires parlent assez peu d'elle et de sa vie et de ses sensations. Il cherche à créer une archive qui la légitimise. Et je pense que pour se légitimer, elle a cherché à être cette petite dame aussi qui est inoffensive. En 1960, elle est morte en 68, je veux dire, c'est quand même... Donc, moi, ce qu'elle m'inspire, c'est qu'elle nous permet de retrouver l'intégralité de notre participation au langage du cinéma, qui est première, en fait. Et c'est tout un travail, parce qu'il y en a d'autres sur le chemin, entre Alice Guy, Agnès Varda, dont on ne se souvient pas du nom, que ça peut être Jacqueline Audry, Marie Epstein, et même plus récemment, des femmes aussi importantes que Yannick Bellon, enfin, et qui ont déjà totalement, voilà, je suis sûre, c'est des noms qui n'évoquent rien, et qui disparu plus récemment. Donc, ce que elle nous raconte, la continuité de notre participation et la continuité de notre effacement, et donc elle est une parmi nous, pas plus inspirante que certaines de mes contemporaines qui se... qui se battent avec autant de force et d'audace.
Elle a été reconnue aussi par certains hommes, par certains cinéastes. On a parlé d'Hitchcock et du bien qu'il en avait dit, mais on pourrait aussi citer Scorsese ou mieux encore l'écouter. C'était en 2011.
Elle a souvent été citée dans la presse de l'époque au sujet de la place des femmes dans l'industrie du cinéma. J'ai le droit d'être là où je suis, disait-elle dans un entretien en 1912. Mais c'est une lutte permanente pour une femme lorsqu'elle doit diriger des hommes dans le cadre de son travail. En un sens, elle a ouvert le chemin qui a été par la suite emprunté par Loïse Weber, Mabel Normand et plus tard par Dorothy Asner. Hélas, comme dit W. Griffiths, sa carrière cinématographique s'est terminée tristement. Elle a été grosso modo oubliée par l'industrie qu'elle avait pourtant contribué à bâtir. 30 ans après avoir mis un terme à sa carrière cinématographique, elle a tenté de retrouver les copies de ses films, mais n'a pu en retrouver aucune. C'est une tragédie, car elle était plus qu'une femme d'affaires de talent. Elle était une cinéaste d'une sensibilité rare, dotée d'un regard poétique remarquable et d'une intuition extraordinaire pour les décors.
Voilà, beau témoignage d'amitié et de reconnaissance d'un cinéaste, Martin Scorsese, à l'égard d'Alice Guy, dont on vous parle aujourd'hui, et notamment de son premier film, La Fée aux Choux, paru, sorti en 1896 et réalisé à tout juste 23 ans. Qu'est-ce que vous entendez, Céline Zuffray, comme reconnaissance dans ces mots d'un réalisateur américain, hein, peut-être justement sur sa part américaine, Alice Guy?
Oui, moi, ce qui m'a fascinée quand j'ai commencé aussi à ce roman, c'est que le milieu des historiens la connaissait très bien. Certains cinéastes aussi, donc comme Scorsese, mais par contre le grand public, pas du tout. Et donc je comprenais pas pourquoi on n'arrivait pas à faire ce pas. Et en fait, plus je travaillais, plus je me rendais compte qu'il y avait une différence entre l'histoire en tant que discipline scientifique et la légende. Et en fait, on se rappelle des Lumières, on se rappelle de Méliès, parce qu'on n'a pas fait simplement que raconter ce qui s'est déroulé, leur vie, mais on a vraiment on les a montés en légende. Et donc je pense que ce qui est important avec Alice Guy et avec toutes les femmes qui ont été oubliées, c'est pas seulement en parler, mais c'est aussi les augmenter quelque part, surtout répéter les choses. Et je trouve que voilà, une histoire, ça se réécrit pas facilement. L'histoire avec un grand H, il y a une version de l'histoire qui annule les autres. Et je pense que ce qui est important de faire, c'est de faire comme Alice Guy, de multiplier les récits et de s'approprier son histoire et de la répéter encore et d'ouvrir l'histoire avec un grand H à toutes les histoires individuelles, multiples et qui contredisent peut-être, mais en tout cas complexifient la grande histoire qu'on raconte d'habitude.
Voilà, c'est changer le récit. Alors je me tourne vers l'historien du cinéma que vous êtes, Daniel Chocon. On se souvient de la petite phrase polémique dans une tribune qui n'était pas tout entièrement loin de là, de Laure Murat, qui est professeure au département d'études françaises et francophones et directrice du centre d'études européennes et russes à l'université de Californie à Los Angeles, l'UCLA, et qui disait qu'Alice Guy n'a pas tant été victime des hommes que des historiens du cinéma. Et là, c'est donc vous que je pointe avec mon doigt. Son effacement, ajoutait-elle, est l'exemplification même d'un déni d'histoire. Est-ce qu'il y a eu longtemps chez les historiens du cinéma, et peut-être chez vous, avec un petit mea culpa, un déni d'histoire? Votre livre date d'il y a 10 ans, hein, quand même, déjà. Oui.
Alors, c'est vrai, je pense que c'est vrai. Le premier, en tout cas l'un des premiers qui s'est vraiment intéressé à Alice Guy, c'est Francis Lacassin. Mais lui était vraiment un cinéaste qui s'intéressait à la contre-histoire du cinéma, en quelque sorte. Il a aussi revivifié la mémoire de Louis Feuillade, qui est quand même peut-être le plus grand cinéaste du cinéma muet français. Et il a, à l'époque, Louis Feuillade était considéré comme un faiseur, comme quelqu'un qui faisait des films comme ça, un peu légers, alors que c'est quand même quelqu'un qui a fait presque 850 films, enfin, avec toutes sortes de thématiques. Et c'est vrai qu'au départ, il y avait aussi le fait qu'on ne voyait pas beaucoup ses films. On avait du mal à trouver ses films, on ne les voyait pas. Et les historiens du cinéma sont directement passés de Lumière à Méliès. Ils ont sauté la case Alice Guy, je crois. Et c'est vrai que c'est assez dommage. Moi, je ne veux pas parler de moi, mais moi, je m'étais tout de suite intéressé à elle parce que je m'étais intéressé aux femmes en général qui avaient fait les premiers films. Donc, je m'étais intéressé beaucoup à Germaine Dulac, qui était une pionnière, elle, dans l'avant-garde, hein, qui était la grande amie de Louis Deluc. et qui a été une femme extraordinaire, qui a fait des textes théoriques qui sont encore très beaux encore aujourd'hui. Puis Musidora aussi, qui était une femme extraordinaire, qui était une grande amie de Colette, et qui a été aussi une productrice de ces films, au même titre que Germaine Dulac, et qui a monté sa première maison de production. Et donc, moi je pense que au fur et à mesure des années, il y a eu une sorte d'ouverture. On a vu que avant Germaine Dulac, il y avait cette femme-là, qui s'appelait Alice Guy, et de plus en plus, les historiens se sont intéressés. Parce que quand on voit, par exemple, l'histoire du cinéma de Georges Chadoul, qui était très important aussi, il y a très peu de choses. Il y a peut-être un paragraphe. Dans l'histoire du cinéma de Jean Mitry, c'est pareil. Il y a très peu de choses aussi. Donc, il y avait vraiment une sorte de boycott d'Alice Guy, en pensant que son rôle n'était pas si décisif que ça, et que comme on ne voyait pas ses films, bon, on ne pouvait pas la mettre par ses profits. Je pense qu'il y a eu de ça.
Oui, déni ou boycott, vous êtes pas très loin du terme de Laure Murat à ce sujet-là. On est avec nos trois invités aujourd'hui, Céline Sciamma, la réalisatrice cinéaste, Daniel Chocron, historien du cinéma qu'on vient d'entendre à l'instant, et la romancière Céline Zuffray pour vous parler de la figure et surtout du cinéma d'Alice Guy pour quelques instants encore, une vingtaine de minutes.
Alice Guy regarde la télévision.
France Culture.
Elle aime beaucoup le cinéma canadien.
Les films qui ont changé le monde.
Et elle a horreur de tout ce qui est violence et érotisme.
Olivia Gesbert.
C'était la parole d'un historien du cinéma, justement. Charles Ford, en 72, qui évoquait Alice Guy. Il l'avait eu au téléphone, quelques temps avant sa mort, et il racontait cette conversation.
Oui, parce que, en plus, je peux vous dire, je l'ai eu comme professeur, Charles Ford, donc je le connaissais assez bien, et il m'avait parlé d'Alice Guy. Quand j'étais jeune étudiant, il m'avait dit que c'était une femme assez passionnante et qu'il aurait aimé écrire un livre sur elle, mais bon, il travaillait avec un certain René Jeanne aussi, et malheureusement, il n'était pas tout à fait d'accord avec lui, et ils n'ont pas pu faire ce livre. Et c'était un historien du cinéma un peu classique, mais qui avait quand même comme talent de faire découvrir ou remettre un peu au goût du jour des cinéastes ou même des comédiens qui étaient complètement oubliés.
On va peut-être juste insister ou en tout cas souligner la technicienne qu'elle était. On le disait, après La Fée aux Choux, Alice Guy va réaliser entre autres un premier moyen-métrage, La Vie du Christ, en 25 scènes, une super production de 35 minutes avec moult comédiens. Elle réalisa aussi Madame a des envies, le premier film que vous avez vu, Céline Sciamma, ou encore L'Effréné, Course à la saucisse. Avec des titres comme ça, on ne peut pas passer à côté de cette filmographie. Des premiers extérieurs, comme dans La Fée aux Choux, elle tournera ensuite dans des studios et elle dirigera, notamment en France encore, pendant ces années françaises, le département de production de Gaumont. On l'écoute.
Vous savez que j'ai beaucoup travaillé avec Dillet. Frédéric Dillet a écrit, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, des ouvrages sur la photographie.
Oui.
Et il m'a donné en somme mes premières leçons.
Oui.
Il m'a montré ce que c'était qu'une surimpression, ce que c'était qu'un fade-in, etc. Alors nous étions beaucoup plus occupés par cette partie-là. Alors, n'importe quelle histoire, n'est-ce pas ? Si nous avons trouvé, par exemple, la façon de tourner le film à l'envers, nous avons fait la maison qui tombait, qui se reconstruisait elle-même, le gourmand qui allait chez un pâtissier, qui avalait trop de gâteaux, qui les rendait intacts, etc. Ensuite, il m'a indiqué comment on pouvait prendre des personnages plus loin ou plus près pour les faire petits et grands. C'est comme ça que nous avons trouvé les uns après les autres des petites choses intéressantes.
Elle ne jouait pas dans ses films, on le disait, mais elle était derrière la caméra. Elle ne cessait d'inventer aussi à travers son art, ce septième art qu'elle avait adopté et auquel elle avait cru tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a inventé, surtout pour vous, Céline Sciamma ? Quelle était la première de ses compétences comme réalisatrice ?
Avoir des idées pour le cinéma. Je pense que c'était son truc, c'était son langage.
Mais elle en parle de manière très concrète.
Ouais,
aussi.
Bah c'est super concret les idées pour le cinéma. Moi, je pense que La Fée aux Choux, elle a l'idée parce que elle a juste un terrain vague pour tourner. Il y a de l'herbe. Elle se dit, waouh, il y a même pas de végétation. Elle se dit, ouais, je vais planter des trucs. Bah, on va les construire. C'est ça le cinéma. C'est quand même projeter des harmonies futures entre des plans et des idées en regardant un bout de terre. Et il se trouve que ça lui plaisait. Et ce qu'elle a inventé, c'est une façon d'avoir des idées pour le cinéma qui est justement de l'animation de plateau. Très physique, j'ai l'impression, et avec ce rapport entre je vois un bout de terre et je décide que j'y fais pousser des choux en carton. Et alors même que c'était pas encore ritualisé ce que c'était que d'avoir des idées pour le cinéma, c'est quand même assez marrant qu'elle ait eu cette facilité.
Ouais. Elle aura une carrière américaine, vous l'évoquiez tout à l'heure, Danielle Chocron. Elle réalisera notamment The Lure, si je prononce bien, Le Leurre, ou encore The Ocean Wave. Et elle va fonder ce studio qui sera très important, le studio Solax, qui produira aussi Chaplin notamment. Vous l'évoquiez à un moment, le studio, enfin ces années américaines, se sont pas si bien terminées. Elle va devoir mettre la clé sous la porte de son studio. Elle sera ruinée, notamment due à la mauvaise gestion de son mari. Elle va parler de ses films américains. On l'écoute.
Nous avons fait surtout beaucoup de films cowboys pour commencer. Oui. C'était la grande mode à ce moment-là. J'ai même eu des cowboys. Ils nous enlevaient nos décors les trois quarts du temps avec leurs petits chevaux qui sautaient partout. J'ai même appris à lancer le lasso.
Voilà, c'était très court, hein, mais comme elle a appris à monter à cheval et à lancer le lasso, c'était aussi intéressant à raconter pour montrer... En fait, c'est le fait qu'elle était, elle aussi, une pionnière. Et qu'en allant aux États-Unis, elle s'y attendait peut-être pas au début, mais qu'est-ce qu'elle y a trouvé? Est-ce qu'elle y a trouvé un autre mythe de ce septième art qu'elle exercera par la suite? Est-ce que ça a changé son cinéma?
Je pense qu'elle s'est beaucoup adaptée au public, en effet, mais qu'elle a trouvé un terrain de jeu beaucoup plus grand, en fait, que Gaumont avait le plus grand studio du monde à l'époque, mais c'était un théâtre, en fait, immense et qui n'était pas du tout adapté pour faire du cinéma. Et donc là, elle, quand elle fonde son studio, la Solax, elle a un petit lac, elle a reconstitué des saloons, une rue, enfin, voilà, elle a tout fait, elle a même fait un film où on voit à un moment donné un navire explosé. Donc là, je pense que en Amérique, tout est plus grand. Et là, elle a trouvé peut-être un territoire à la mesure de ses ambitions.
Elle va subir quand même la concurrence d'Hollywood hein, dans ces années-là. Elle n'était pas tout à fait au bon endroit géographiquement.
Bah, c'est surtout que le cinéma aussi est en train de devenir rentable. Et c'est ce qui a fait aussi qu'on s'est débarrassé d'elle en France. Donc c'est le moment surtout où le capitalisme fait son entrée dans cet art qui devient une industrie. Et ça, effectivement, ça lui va pas, et ça lui va pas politiquement aussi, je crois.
Ça, elle le raconte assez bien. Je vous propose un dernier extrait dans son autobiographie. Et c'est Delphine Seyrig qui lit Alice Guy, extrait de l'autobiographie de la réalisatrice. Sa chance, c'est qu'à l'époque, le cinéma n'existait pas, que la technique était encore expérimentale et l'industrie balbutiante. Elle n'attirait pas, en tout cas, comme elle l'a fait par la suite.
Fille d'un éditeur, j'avais beaucoup lu, pas mal retenu. J'avais fait un peu de théâtre amateur et pensais qu'on pouvait faire mieux. M'armant de courage, je proposais timidement à Gaumont d'écrire une ou deux scénettes et de les faire jouer par des amis. Si on avait prévu le développement que prendrait l'affaire, je n'aurais jamais obtenu ce consentement. Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi.
Tout conspirait contre moi. Céline Sciamma.
Petit tour de ma biographie.
Un siècle après.
Ben, on voit qu'elle est complètement lucide. Et en plus, il se trouve que Alice Guy, elle vit dans un moment qui est un moment d'expansion féministe. C'est un moment fabuleux pour les féministes. Les idées sont dans la société, dans la presse. Donc elle est tout à fait consciente. Hein. Elle cherche à échapper au mariage le plus longtemps possible. Donc elle est dans une analyse systémique, là, rétrospective. Mais je pense que sur le moment, elle sait aussi que c'est sa chance et qu'il faut la saisir.
Ce qui est formidable, c'est que quand elle est aux États-Unis, elle fait des, par exemple, quand elle fait des films de cow-boy, comme elle le dit, elle fait des poursuites, elle fait
des cascades,
des cascades, elle va sur le terrain
de ce qu'on dirait des hommes aujourd'hui.
Oui, c'est vraiment extraordinaire. Elle s'est très bien adaptée au cinéma américain, qui n'était pas balbutiant, mais qui n'était pas encore aussi structureux avec Hollywood à partir de 1912. Et donc, c'est vraiment à noter parce que elle a vraiment été très très novatrice de ce point de vue-là, quoi. Mais je pense que son film le plus féministe, je ne sais pas si vous l'avez vu, Céline, c'est un film qui s'appelle L'Américanisé.
Ouais.
Vous l'avez vu ? Où justement, c'est un homme, un agriculteur venu de Russie avec sa femme et ses deux enfants, qui a l'habitude de frapper sa femme. Et donc, les villageois vont se retourner contre lui en disant « on ne frappe pas une femme aux États-Unis ». Bon, voilà. Et là, la personne va faire une sorte de stage, justement, de reconversion, comme ça. Et à la fin du film, on le voit très gentil avec sa femme, etc.
Pourquoi c'est le plus féministe pour vous? Justement parce qu'elle dénonce la violence.
Oui, elle dénonce la violence de l'homme, etc. Ouais. Oui, elle prend le sujet à bras le corps et tout. Et c'est un film qui est assez long. Je crois qu'il doit faire une vingtaine de minutes, hein, qu'elle a dû tourner dans les années 14-15, par là. Et c'est un film très frappant de ce point de vue-là.
J'ai l'impression que de la manière dont on en parle, depuis le début de cette conversation, on la présente comme étant assez solitaire, presque comme si elle était isolée dans ce paysage. Est-ce que c'est totalement juste? Elle avait quand même, dans ce milieu aussi, pas mal d'amis qu'elle a aidés. Elle a peut-être aussi à son tour été aidée, influencée par d'autres au même moment.
En tout cas, elle avait des amitiés fortes en France avec effectivement des actrices dont vous parliez. Et aux États-Unis, elle s'est reconstituée, notamment avec Alana Dimova, je crois, un cercle. Mais elle a laissé peu de traces de sa vie intime. Et je pense vraiment, pour, encore une fois, pour être crédible comme figure historique, mais on ne peut pas être isolé quand on fait du cinéma, parce que c'est vraiment une chose qui se fait totalement en collaboration avec des très grandes équipes. Et je crois, en plus, qu'elle adorait ça. Voilà, c'est ça qu'il faut dire d'Alice Guy, c'est que elle a toutes ses idées, elle a toute cette énergie, ce courage et tout pour surmonter bien des arrêts dans sa carrière. Mais elle adore ça. Elle adore le langage du cinéma et avoir des idées pour le cinéma. Pour elle, c'est vraiment fun, quoi. Et du coup, je pense qu'aux États-Unis, il y a quelque chose qui peut totalement s'exprimer de ça aussi, quoi. C'est oui, que ça l'amuse beaucoup, quoi.
Ça, et on peut concevoir aussi qu'à cette époque où le cinéma était encore un art quand même naissant, expérimental et au sens très positif du terme, c'est-à-dire où beaucoup avaient envie d'essayer, d'expérimenter des choses, il y avait ce plaisir dans le partage, dans l'invention commune et dans la discussion. C'était une langue qui s'est probablement aussi co-créée, non, Céline Dufray?
Oui, sûrement. C'est vrai que dans ses mémoires, voilà, on voit peu affleurer sa vie intime. Mais j'ai l'impression que dans les détails qu'elle raconte, certaines anecdotes, moi, il y en a une qui m'a vraiment frappée où elle va beaucoup sur le terrain, elle s'implique beaucoup, elle fait de la documentation. Et donc là aussi, elle lie des amitiés sur les sujets qu'elle veut filmer. Et notamment, il y a un moment où je crois que c'est ils ont un tigre et une tigresse pour un film. Et donc personne ose rentrer dans la cage de la tigresse, et elle dit bon bah il fallait bien que ça soit quelqu'un, comme j'étais la réalisatrice, j'y vais. Et à un moment donné, elle nous parle juste de cette tigresse, et c'est un détail sur lequel elle devrait pas s'attarder, mais elle s'y attarde et elle dit voilà, elle refusait le mâle, le tigre, et donc la tigresse est devenue un petit peu folle, et elle dit juste on a dû l'abattre. Et on comprend pas pourquoi elle nous raconte ça à ce moment-là. Ça a vraiment pas beaucoup de rapport avec le reste. Et moi, j'ai toujours vu ça comme une espèce de métaphore où elle essayait de nous dire quelque chose, ou peut-être qu'elle-même n'en était même pas consciente à l'époque où elle l'écrivait. Mais moi, ça m'a vraiment beaucoup frappée et ça m'a beaucoup émue, en tout cas.
La Fée Cinéma, Alice Guy, autobiographie d'une pionnière rééditée chez Gallimard, que vous avez préfacée, Céline Sciamma. En effet, ses mémoires, vous l'avez évoqué, peut-être le rappeler, elles ne seront publiées qu'après sa mort, à titre posthume, en 1976. Louis Gaumont, qui est, je crois, le fils de Léon Gaumont, l'industriel, le fondateur de la société Gaumont, qui avait été d'abord le patron d'Alice Guy, raconte à propos de ce livre, à propos de ses mémoires d'Alice Guy.
Elle écrivait ses mémoires, mais je crois qu'elle n'a pas trouvé d'éditeur en France. Et je pense que sa fille a trouvé une possibilité d'éditer ses mémoires en Amérique.
Comment expliquez-vous qu'elle n'ait pas réussi à les publier en France?
Bah, vous savez, c'est pas tellement extraordinaire. Si elle racontait des choses tout à fait normales, du moment qu'elle n'avait pas des mœurs spéciales ou quelque chose comme ça, il n'y avait pas de raison qu'on lui fasse un succès particulier. Les éditeurs ont dit, oh ben Alice Guy, ça n'ira rien.
Et voilà, pas assez sulfureuse, pas assez anormale, pas assez extravagante, un peu ennuyeuse, hein, à l'air de nous dire Louis Gaumont dans cette autobiographie.
Cependant, Louis Gaumont qu'on a entendu a été beaucoup plus sympathique avec elle que son père Léon, qui a refusé de la voir quand elle est rentrée des États-Unis, qui s'est très mal comporté avec elle, alors que Louis Gaumont lui a permis de pouvoir essayer de trouver des films. Et ça, il faut lui rendre hommage de ce point de vue-là.
Mais par ailleurs, il ne donne pas tant son avis sur elle, sur Alice Guy. Il raconte pourquoi ce livre voilà, n'a pas ça. Été ouais. édité et pourquoi c'est il vrai. Ne se serait probablement pas vendu c'est dans vrai. La vie, ou en tout cas dans l'esprit des éditeurs. Mm-hmm. Ce qui raconte aussi quelque chose de l'époque.
Et là aussi, elle est très moderne, c'est quand elle a dit « soyez naturel à ses comédiens mm-hmm. ». Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années où elle le dit, on est en plein film d'art, ce qu'on appelle le film d'art, qui est une tendance du cinéma, où les films sont réalisés avec des acteurs de la comédie française, donc qui surjouent au maximum, qui sont très théâtraux, comme ça, très emphatiques. Et elle arrive en disant « soyez naturel à ses comédiens ». Ça aussi, c'est une forme de modernité. Aussi.
Mm-hmm. Elle est comment dans cette autobiographie ? Elle a une écriture plutôt blanche
assez sage. On a assez peu de ses sensations, surtout où la chose qui est très troublante, c'est que le livre s'arrête avec sa carrière. Il lui reste la moitié de sa vie à vivre. Et on n'en a aucun aperçu. Donc, il y a vraiment une volonté performative du livre qui ne permet pas d'ailleurs d'en penser grand-chose d'un point de vue littéraire, à vrai dire. Il nous informe sur sa démarche. Et donc, il y a une mélancolie de ça, parce qu'il y a plein de moments où elle se retient de raconter. Et moi, la chose qui est la plus troublante, c'est ça. C'est qu'à un moment, elle raconte, par exemple, qu'elle conduit sur une corniche, elle rapatrie une voiture jusqu'à Los Angeles. Elle raconte, elle dit, il faudrait des chapitres pour raconter ce moment. Elle les a. Elle a toute sa vie pour écrire ce livre. Et elle le fait pas. Ce qui est hyper triste aussi, c'est qu'à la fin, elle-même, elle a perdu la mémoire. Et du coup, il y a eu un moment sur Terre où même Alice Guy savait plus qu'elle avait fait des films.
En rentrant, elle a écrit des contes, hein, des contes plutôt pour enfants, avant de s'atteler justement à ses mémoires. Alors, dans les trois dernières années, mais surtout la dernière année, on a eu un documentaire, on a eu encore un roman graphique, et aujourd'hui votre roman, Céline Zuffray, qui paraît et qui montre et qui raconte aussi l'importance de ce retour dans nos imaginaires. Hein, peut-être tout simplement. Pourquoi, en un mot, vous aviez-vous envie de la réhabiliter dans ce moment?
Ouais, j'ai commencé à écrire ce roman il y a 5 ans. Donc ensuite sont arrivés en effet les documentaires et la BD et je suis vraiment très heureuse que on est en 2023, ça sera les 150 ans de la naissance d'Alice Guy, donc c'est aussi symbolique et donc on en parle de plus en plus. Mais je pense qu'il faut pas oublier qu'on oublie régulièrement justement des figures. C'est pas parce qu'on les redécouvre à un moment donné que c'est bon, elles ont été sorties de l'eau et elles vont plus se noyer. Non, elles replongent régulièrement et on les redécouvre régulièrement. Et donc je pense que le travail de répétition est très important. Et moi, ce qui m'avait frappé quand j'ai été voir les archives Alice Guy qu'on peut trouver à la Cinémathèque, c'est que voilà, elle a cette écriture dans cette encre bleue et vraiment dans les marges des articles, des notices Gaumont qui ne mentionnent pas son nom. Elle est là avec son écriture manuscrite à essayer de rattraper l'histoire et de répéter sa place. Et donc ses mémoires ont été publiées après sa mort. Elle n'a pas pu voir cette version imprimée, qui je trouve est très importante et qui permet aussi de légitimer sa place par rapport à une histoire avec un grand H qu'on a écrit sans elle. Et là, j'espère que justement les documentaires, mon roman, ses mémoires rééditées, là on combat sur le même terrain, le terrain de l'imaginaire, le terrain de l'imprimé, et que donc sa place peut être de plus en plus assurée maintenant.
Voilà. Et puis c'est des livres sans nitrate, hein, justement, qui ne risquent pas de s'effacer. Le support est moins fragile. Merci beaucoup à vous, Céline Zuffray. Nitrate, votre roman a paru cette année chez Gallimard. Merci à vous aussi, Céline Sciamma, qui avait préfacé cette autobiographie dont on a beaucoup parlé et qui reparaît, justement, qui a été réédité chez Gallimard. Et vous, votre livre, Daniel Chocron, j'espère qu'on peut le trouver.
Oui, on le trouve.
Voilà, Alice Guy, pionnière du cinéma, tout simplement, et vous, l'un des pionniers dans les historiens du cinéma, à lui avoir aussi rendu cet hommage et réhabilité cette figure du cinéma, cette française qui a marqué l'histoire du cinéma. Merci à tous les trois.
Merci.
Merci. Merci.
J'aurais beaucoup aimé être actrice. Mais alors j'avais un père qui me disait « Ah non, jamais. Actrice, j'aime mieux te voir morte. » Vous savez ce que c'était que la bourgeoisie à ce moment-là.
Un grand, grand merci à Sophie-Catherine Gallet qui a programmé cette émission, à Félicie Fougère qui l'a documentée sonorement, comme on l'a bien vu durant cette conversation, et qui a réalisé aussi cet entretien avec vous trois. Merci beaucoup à Étienne Rouche aujourd'hui, à La Technique. Les films qui ont changé le monde, une série d'émissions à réécouter quand vous le souhaitez sur radiofrance.fr.